Radio Panique. Brie dans la nuit.
Bonjour, vous écoutez Radio Panique. Il est 18h, nous sommes le mercredi 6 octobre et dans une édition spéciale de Panicorama, on va parler aujourd'hui du festival en ville et plus particulièrement d'un film et d'une création radiophonique qui y sont programmés. On est en compagnie de nombreux invités et de Julien. Bonjour Julien.
Bonjour Pierre.
Nos invités, donc, oui, tu as présenté.
Mais oui, il y a d'abord Pauline David. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Et vous êtes la directrice artistique, la programmatrice de ce festival. On a également Delphine Will. Bonjour Delphine.
Bonjour.
Et vous êtes l'autrice, la co-autrice avec Jeanne de Barcy, qu'on salue, d'une création sonore qui sera programmée dans le cadre de ce festival. Elle s'intitule « Sous l'eau, les larmes du poisson ne se voient pas ». C'est déjà tout un programme et c'est un très joli titre. Et puis on a également la réalisatrice Laure Portier. Bonsoir Laure.
Bonsoir.
Et vous êtes la réalisatrice, c'est votre premier long métrage du documentaire intitulé Soy Libre, qui est également évidemment programmé dans le cadre du festival En Ville, un festival qu'on aime beaucoup à Radio Panique. Hein, Pauline, on avait déjà eu l'occasion de vous recevoir l'année passée pour une édition un petit peu chahutée, mais qui avait quand même pu se dérouler plutôt de façon plutôt chouette. C'était au mois d'août 2020. Oui. On avait d'ailleurs aussi organisé une émission en direct de l'un des QG du festival l'année passée. C'était à La Vallée avec les réalisateurs Mathieu Volpe et il y avait également Nelson Makengo. Et donc, on va peut-être pas revenir sur tout l'historique du festival. C'est une prolongation du projet Le Petit Ciné, hein, vraiment un acteur incontournable du documentaire ici sur la place culturelle bruxelloise. C'est la troisième édition de ce festival, dont le parrain, on l'avait déjà évoqué l'été passé, mais on va quand même encore y revenir un tout petit peu, est Frédéric Wiseman, grand documentariste, qui cette année en plus vous fera le plaisir de sa présence physique à Bruxelles, qui n'avait pas été évidemment possible l'année passée. Et c'est d'ailleurs aussi l'occasion d'une rétrospective, alors évidemment pas total, ce serait pas possible, puisque je sais pas moi, il y a 40, 50 documentaires de Frédéric Wiseman, mais en tout cas une sélection, une dizaine de ces documentaires qui seront projetés à la Cinémathèque. Alors, peut-être Frédéric Wiseman, Delphine ou Laure, alors même on va revenir sur vos créations respectives, mais c'est peut-être un documentariste qui, sur le fond et sur la forme, qui a l'air un petit peu aux antipodes de votre propre travail, mais c'est quelqu'un qui reste une référence pour vous, que vous avez étudié, qui vous avez des souvenirs de certains de ses films, ou c'est vraiment une autre génération de documentaristes? Comment vous vous positionnez par rapport à ce parrainage prestigieux? Laure.
Étudier, oui, toute sa filmographie, non, mais je garde de lui évidemment Ticket Follies,
mm-hmm. qui est son premier, je pense, sera d'ailleurs projeté dans le cadre du Festival en Ville.
Après, moi, j'ai gardé de lui de nourriture, hein, c'est de se dire qu'il était du côté du son. Mmh. Et sa manière de ne, enfin, c'est pas du tout ma manière de travailler, mais voilà, c'est ce que de se dire que c'est possible de travailler comme ça. Et voilà, lui il raconte notamment qu'il fabriquait la narration au montage, qu'il avait une quantité de rush pas possible par rapport à des économies de cinéma occidentaux qui eux étaient dans, enfin on parle de pellicule en plus à l'époque, qui étaient dans un rapport plus économe à réfléchir en amont son histoire. Après Wiseman s'est beaucoup préoccupé, enfin il part d'un lieu en général, mm-hmm. et voilà, du coup c'est pas mon cas, mais mais non, mais c'est évidemment un grand maître.
Mm-hmm. Jeanne.
Delphine.
Delphine, pardon, excusez-moi.
Moi, en fait, j'ai pas fait d'études de cinéma. Et donc, Wiseman, je l'ai connu un peu sur le tard. Mais évidemment, son travail, son parcours, c'est quelque chose que je respecte beaucoup. Effectivement, c'est pas le même style de travail que nous. Je dis nous parce que c'est vrai que Laure et nous, on a un peu, je pense, une approche qui peut se paraître similaire en tout cas. Mais voilà, oui, c'est un grand documentariste et que je serais très contente de voir en tout cas au festival et de voir et revoir ses films, quoi.
Alors, Pauline, c'est seulement la troisième édition de ce festival et il est parrainé depuis le début par Frédéric Wiseman.
Oui, et si je peux rebondir sur ce que viennent de dire Delphine et Laure. En fait, moi, ce qui m'intéresse dans les films de Frédéric Wiseman et là où je vois des liens entre son cinéma et les propositions de Delphine, de Laure et de tous les cinéastes invités dans le festival, c'est d'une part l'hyper-attention qu'il porte à ses contemporains, donc où il va toujours aller chercher ceux et celles qu'on ne voit pas forcément, ceux et celles qui n'ont pas forcément, qui sont pas présents sur les écrans de prime abord, et d'autre part sa capacité à se laisser surprendre par le réel. Et donc dans sa technique de travail, comme l'a dit Laure, c'est effectivement beaucoup de montage, mais c'est aussi une hyper écoute au moment du tournage, de ne pas arriver avec une idée préconçue sur le tournage. Il fait très peu de repérage, il pense que sur le moment il va se passer quelque chose, et une fois qu'il est sur place et qu'il a défini un cadre de tournage, il est très 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 attentif à ceux et celles autour de lui. C'est en ça que je vois vraiment un lien avec tous les films présentés dans le cadre du festival. Mmh.
Donc plusieurs films de Frédéric Wiseman, notamment son dernier, City Hall, sur la mairie de Boston, mais également des films plus anciens. C'est à partir du 10 octobre, ça se fait un peu partout, mais essentiellement à la Cinémathèque. C'est l'une des caractéristiques de votre festival, d'ailleurs, c'est d'être de diffuser parmi plusieurs salles de la ville. Hein. Ça a été, dès le départ, une de vos volontés, c'est d'investir plusieurs cinémas, pratiquement tous les cinémas, en tout cas indépendants, d'arrêt d'essai de la ville, y participent, que ce soit le Palace, les Galeries, le Nova, le Vendôme, l'Aventure, la Cinémathèque, bien sûr. C'est encore le cas aujourd'hui. On peut simplement signaler qu'il commence ce festival, on n'a pas encore tout à fait donné les informations pratiques. Demain, jeudi 7 octobre, au Cinéma Palace, avec Alpes de Naël Cléphy. On va venir un petit peu sur la programmation. Il y a deux sélections, en réalité, deux compétitions. Une compétition internationale et une compétition dite échappée. Alors, quelle est la différence entre ces deux compétitions et en tant que programmatrice, que directrice artistique, comment vous avez réparti les films que vous vouliez mettre à l'honneur parmi ces deux compétitions?
Mais le festival En Ville, il s'appelle En Ville parce qu'effectivement il est très inscrit sur le territoire de Bruxelles. Donc comme vous l'avez dit, l'idée c'est de pouvoir, en allant voir des films, aussi découvrir des lieux, découvrir des salles de cinéma, mais aussi découvrir par exemple le Piano Fabrique où le documentaire radiophonique de Delphine sera programmé. Ou de Mark Tun, ou une conférence de Mathieu Van Krikhagen aura lieu. Donc voilà, donc vraiment, il y aura une visite guidée qui, bon, et là c'est déjà complète, enfin, tant mieux pour ceux qui sont inscrits, de l'architecture qui dégenre, pour se balader avec un regard un peu féministe dans la ville de Bruxelles et ses architectures. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de s'inscrire sur le territoire de Bruxelles, et puis de découvrir du bon cinéma documentaire. Et donc c'est aussi un état des lieux du cinéma documentaire actuel, récent, belge et international. Et donc dans la programmation, j'ai été effectivement attentive à aller chercher des films qu'on ne pouvait pas voir ici, et qui sont très rares, comme El Año del Descubrimiento, qui est un film espagnol qui revient sur les mouvements sociaux en Espagne dans les années 90, qui est un film qui a été enfin voilà, qui a eu le prix du meilleur film documentaire au Goya à Bruxelles, en Espagne, qui est sorti en salle, mais qui a sa petite longueur, hein, près de 3 heures, et donc qu'on n'aurait jamais l'occasion de découvrir ici. Donc des films comme ça, et puis des vrais coups de cœur. Des films que je dis puissants, et puis des films qui sont vraiment des échappées, des essais, des propositions tout à fait singulières de la part de cinéastes, et qu'on a envie d'aider, de donner un coup de pouce, de dire ces films-là, vous les verrez jamais ou vous les verrez rarement, parce que c'était très difficile de voir du film documentaire sur grand écran, mais... avec la fermeture des salles, c'est encore plus difficile. Même les grands festivals documentaires internationaux ont réduit leur voilure. Donc il y a des très bons films ou des films qui sont vraiment très bien, qui ne trouvent pas leur place. Et donc le pari, c'est de dire, on vous donne l'occasion de partir à la découverte de chemins de traverse, de films qui vont vous étonner, vous surprendre, qui vont peut-être vous habiter, même, on espère.
Ça, c'est plutôt alors la compétition dite échappée, ces films un peu surprenants ou peut-être d'auteurs, d'autrices moins confirmées. C'est cela le
oui,
critère
tout à fait.
Un peu. Alors, c'est vrai que vous évoquiez le documentaire El Año del Descubrimiento, qui dure 3 heures. À côté de ça, on a aussi des documentaires plutôt brefs, des documentaires de moins de 20 minutes. Il y a une compétition, alors c'est une question peut-être un peu naïve, mais comment est-ce qu'on évalue des documentaires qui font 3 heures à côté de documentaires beaucoup plus brefs? Je sais pas, comment est-ce que... Et puis comment ça va se passer? Il y a un jury, j'imagine?
Oui, il y a des très chouettes jurys, il y en a plusieurs. L'idée, c'est de se dire que c'est pas une compétition, qu'on est tous là, que les spectateurs sont là pour voir des films. Qu'effectivement, dans les courts-métrages sont plutôt dans la compétition échappée. Donc c'est quand même plutôt des courts ou moyens-métrages qui seront présentés dans ce cadre-là. Donc, c'est plus facile pour les jurys de pouvoir évaluer. Et surtout, les jurys, ils vont réagir au coup de cœur, avant tout, aux films qui vont leur parler, ou à des promesses de cinéastes. Donc ils vont pas évaluer le meilleur film, ils vont évaluer le film qui leur parle le plus au moment où ils doivent choisir des prix.
Avec effectivement plusieurs prix, des prix je dirais en de l'argent, il y a des prix aussi d'aide à la création, d'aide à la réalisation, d'aide à l'écriture, donc vraiment des prix aussi qui visent à aider. Et vous nous aviez évoqué l'année passée ce souhait des réalisateurs, des réalisatrices de recevoir des prix en quelque sorte, de pouvoir être aidé. On a quand même le sentiment que, vous venez de le dire, qu'il y a cette volonté d'offrir un panorama, sans doute pas exhaustif, mais quand même très très complet du paysage du film documentaire contemporain. Et en effet, quand on voit les thèmes abordés, s'il y a des choses très ancrées, très réelles, on peut penser par exemple à OETC, A Love Story, qui revient sur la transformation du quartier de la gare du Nord. C'est un documentaire de Lydia Bowens et de Wouter de Reve. Il y a Chasser les dragons, qui est un documentaire d'Alexandra Candy-Longuet qui porte sur la salle de consommation installée à Liège. Donc des documentaires vraiment qui sont presque de proximité. Et puis il y a des propositions beaucoup plus oniriques, des propositions beaucoup plus intimes. Il y a pas véritablement un fil rouge thématique, mais j'imagine que vous, chez vous, dans votre travail de programmatrice, il y a un fil rouge.
Oui, le fil rouge, donc le festival en ville, c'est un festival pour raconter nos territoires et celles et ceux qui les habitent, qui les font vivre, et aussi tout le rapport à l'imaginaire du territoire. Et le fil rouge, je l'ai découvert une fois les films sélectionnés. En fait, il est très très clair. C'est vraiment tous des films qui explosent les frontières, en fait, qu'elles soient visibles ou qu'elles soient intérieures. Donc c'est, par exemple, By the Throat de Effie et Amir, qui sera montré le 13 octobre, qui part d'une réflexion sur la voix. Et comment la voix peut être frontière. Donc... en fait, c'est un film de montage, hein, c'est un film de fin de footage, d'archives, avec aussi des parties qu'eux-mêmes ont tournées. à partir d'exemples très réels. Par exemple, comment les catholiques de Belfast dans les années 90 étaient mis de côté et étaient reconnus par les protestants et à leur accent, en fait. Ouais. Donc c'est vraiment comment la voix peut être un outil de stigmatisation, en fait. Ou par exemple, ils reviennent sur le cas de nos pays, en fait, où tout un attirail informatique est mis en place par nos gouvernements pour reconnaître les accents des personnes migrantes arrivant sur nos territoires pour voir si ils ne mentent pas sur leurs origines, en fait. Mmh. Et donc, c'est à partir des sons et des accents prononcés qu'ils vont reconnaître si c'est bien la bonne région énoncée dans le compte-rendu d'immigration, etc. Donc c'est vraiment... Donc là, on est sur les territoires, mais des territoires totalement invisibles, en fait. Mmh, mmh.
C'est intéressant que vous preniez l'exemple de By the Throat, de F.E.Y., c'est Amir Borenstein, parce que c'est aussi un des documentaires où la part du son est essentielle. Il y en a d'autres. Il y a aussi le Luces del Desierto de Félix Blum, où là, c'est presque un film d'horreur sonore. Et ça me permet aussi d'ailleurs de dire qu'il y a effectivement une prolifération formelle assez saisissante. C'est-à-dire qu'on parle du documentaire comme étant le cinéma du réel, mais en même temps, on a des images, vous venez d'évoquer des images d'archives, des images de phone footage, des films qui sont montés à partir d'images familiales, d'archives personnelles. On a un film qui revient sur les événements de 2005 en France, les émeutes dans certaines banlieues, qui n'est composé que d'images de journaux télévisés. On a un film Clean With Me After Dark de Gabriel Stemmer qui a l'air assez fascinant, qui lui est composé d'images venant d'une plateforme de streaming en ligne. On a aussi des images un petit peu trafiquées, un petit peu truquées. On a même des effets spéciaux, en tout cas dans le film brésilien Copacabana Madureira. Donc c'est plus du tout, en fait, le documentaire, c'est plus du tout de mettre une caméra et de filmer le réel, quoi. Contrairement à peut-être une idée un peu naïve ou un peu ancienne du documentaire, quoi. Ça va dans tous les sens.
Ouais, c'est-à-dire que le documentaire est comme l'être humain, complexe. Et c'est ça qu'on avait envie de montrer aussi avec ce festival. Donc c'est l'idée, enfin, un des mots que j'aime bien, c'est un festival composite. Donc ça a eu une répercussion aussi sur la sélection, parce que le but c'était de montrer aussi dans cet état des lieux du film documentaire qu'aujourd'hui on peut aborder cette question du réel de plein de façons différentes si on a un propos, si on a un intérêt pour son environnement, si on a quelque chose à transmettre aux spectateurs et spectatrices. Et que la forme va évidemment dépendre de la façon dont on a envie de raconter l'histoire, en fait. Donc pour moi, c'était extrêmement important d'avoir des propositions très éclatées. Et moi, je les trouve toutes géniales. Donc voilà, le pari, c'est qu'on aime plein de choses différentes et qu'on va rencontrer des propositions qui ne sont pas, enfin qui sont singulières vraiment et que ça marche parce que on a cette capacité à être surpris par plein de choses différentes.
Mmh. Par rapport à cette idée de prolifération d'images différentes, je pense qu'on en a un assez bon exemple avec Soy Libre, le film de l'or, où il y a cette contamination progressive d'images de type selfie, en fait, d'images, le type d'images qu'on pourrait poster sur des réseaux sociaux et qui ne sont pas faites pour le cinéma au départ, et enfin, qui sont là faites pour le cinéma, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. Je trouve ça assez intéressant, c'est évidemment pas le premier film qui introduit ce genre d'images et ce type de contamination, et je pense que le cinéma est assez grand pour survivre à ça, mais c'est aussi... Enfin, c'est pas par hasard que ces images arrivent dans ton film.
Non, du tout, c'est pas par hasard qu'elles arrivent. Je voulais rebondir sur le mot que tu avais utilisé concernant ces images, mais elles font cinéma à partir du moment où elles ont été fabriquées pour raconter une histoire. Mmh. Elles n'ont pas été fabriquées pour simplement faire un selfie. Je vais reprendre depuis le départ. C'est mon jeune frère qui va se filmer, mais
à votre demande, hein, c'est vous qui lui fournissez la caméra.
C'est moi qui lui fournis la caméra, mais
et vous lui demandez, j'imagine, de vous donner des nouvelles.
Non.
Il en fait ce qu'il veut.
Je lui offre une caméra comme point de départ. Je lui offre une caméra pour qu'il prenne l'outil caméra et qu'il en fasse quelque chose entre lui et lui-même. Il aurait pu ne pas répondre au film. C'était pas une injonction. Mm-hmm. Il s'avère qu'on avait un objet film. Qui nous liait, donc il fallait. J'espérais évidemment qu'il m'offre quelque chose, mais il n'y avait pas d'injonction là-dedans. À partir du moment où il m'en a passé et que j'ai compris ce qu'il en faisait, j'en ai voulu plus. mais comme point de départ, c'était pas spécialement dédié au film.
Donc on va effectivement expliquer Soy Libre, Laure Portier. Donc depuis, c'est un projet de longue haleine, puisque vous filmez votre frère, en réalité, votre jeune frère. Et ça a commencé en 2005, je pense que les premières images que l'on voit. Et ça va se prolonger pendant presque une quinzaine d'années, puisque les dernières images ont été filmées en 2019. Et pendant tout ce temps, vous allez filmer votre frère. Et vous allez aussi, comme vous venez de l'expliquer, lui offrir une caméra pour qu'il en fasse ce qu'il veut. En l'espèce, il va se filmer. Et donc, c'est vrai que alors, qu'est-ce qui fait que ce... Pourquoi ce film n'est signé que par vous, finalement ? Quelle est la part de votre frère dans la réalisation, la mise en scène de...
C'est en soi une très bonne question. Quelle est la place qu'on donne... qui est l'auteur ? Je crois que c'est assez clair dans le film que l'initiative du film vient de moi, mm-hmm. Vient de moi parce qu'il a envie d'y être. Et après, il y a c'est quoi qu'on en dise, c'est mon regard sur cette histoire. Mm-hmm. Je pense que si on avait eu quatre mains pour le faire, ça serait pas du tout le même film. Je choisis le début et les péripéties et la fin. Et je pense qu'il il ne raconterait pas ses 15 ans d'histoire du tout de la même manière. Mmh. Donc la question ne lui a pas été du tout posée sur comment est-ce que toi tu regarderais ces 15 ans d'histoire. Mmh.
Il y a d'ailleurs dans le film, de temps en temps, des désaccords sur ce qui devrait être filmé ou pas.
Oui.
Donc le fait que ça ne soit pas forcément son regard se voit dans le film, en fait.
Oui, mais le projet de départ, en 2005, parce qu'en 2012, ça devient de faire un film. Et comme point de départ, en 2005, moi, je viens d'entrer à l'INSAS. J'aimerais qu'on ait un projet commun. Et moi, j'aimerais qu'on fasse du cinéma ensemble. Mais c'était pas encore. J'avais pas défini quel était mon rapport au cinéma. Et lui n'avait pas encore défini la sienne non plus. Après, ça va mettre quelques années pour que je sois celle qui veuille raconter des histoires et que lui, il a envie de jouer ce jeu-là. Moi, je l'emmenais sur les films de fin d'études. Je me disais qu'il allait faire le clap. Et en fait, ça le faisait complètement chier. Ça ne l'intéressait pas du tout. Lui, il voulait faire des relevés à vélo. Et il voulait qu'on le regarde. Et à partir du moment où, voilà, où on s'est posé à l'endroit où chacun avait envie d'être, on a pu commencer à faire ce film.
Alors, c'est assez... Pour les personnes qui vont voir le film, quand vous dites qu'ils voulaient qu'on le regarde, c'est assez bouleversant parce que quand on comprend vite que votre frère a souffert d'un manque d'affection, son père était absent, sa maman était violente avec lui, et votre frère est ce qu'on pourrait appeler un jeune un peu délinquant qui sait pas très bien ce qu'il veut faire. Il dit, moi je veux affronter la vie, c'est un peu ça son objectif. Et puis il y a cette idée que, avec tout le passé qu'il a eu, qu'il soit encore en vie, qu'il soit pas, comme il le dit lui-même, drogué, etc. C'est déjà une première victoire. Et puis après, il veut effectivement vivre la vie. Mais si vous avez eu le sentiment que votre film était nécessaire précisément pour un peu guérir votre frère des blessures qu'il a rencontrées, ou c'était pas ça le ressort initial?
Comme point de départ, c'était plein de choses de cet ordre-là. C'était le venger, le sauver, l'élever. C'était plein de choses aussi, comment dire, avec plein d'espoir et plein de sous-textes qui n'ont pas de prise sur la réalité. Et c'est ce à quoi je me confronte aussi en faisant ce film. On ne sauve pas, l'autre. On ne venge personne. Enfin, et donc du coup, c'est des fausses bonnes idées. Donc ce qui en reste, c'est le projet commun, c'est le film. Mmh. Et c'est oui, et du coup, au travers du film, il y a des endroits de confrontation entre lui et moi, et à l'intérieur de ça, on se débat nous-mêmes avec ce qu'on aimerait être pour l'autre, ce qu'on imagine de l'autre. Ça
s'est passé avec des étapes intermédiaires dans le travail, ou bien tout à coup en 2019. Il y avait vraiment tellement de matière qu'il était temps de boucler un film avec...
Oui, les différentes étapes, c'est déjà, il y a quand même l'élaboration d'une histoire qui passe beaucoup quand même par l'écriture, donc qui permet un peu aussi de se nourrir, de se positionner par rapport à la narration, enfin, en tout cas moi de mon côté. Et puis il y a la vie entre 2005 et 2021, en fait, parce que il y a des images, mais il y a des sons, et les derniers sons
sont très récents.
Déjà, il date du 25 janvier 2021.
Ok. Mais donc vous parlez d'écriture, vous parlez de narration. On a l'impression que certaines scènes, donc en fait votre frère va voyager, vous provoquez aussi un peu les événements, c'est un peu grâce à vous aussi qu'il s'en va en Espagne, puis qu'il ira encore plus loin en Amérique latine, puis reviendra pour une scène d'ailleurs assez bouleversante avec votre grand-mère, puis repartira de nouveau en Amérique latine. Donc vous provoquez un peu les événements, on a le sentiment quand vous le rejoignez sur place qu'il a préparé certaines scènes, qu'il a fait des repérages. Il y a une scène assez saisissante avec un scooter où il est presque en costume pour cette scène, et on n'a pas du... Alors, est-ce qu'on est encore... On interrogeait les frontières du documentaire avec Pauline il y a un instant, mais est-ce que ça relève encore du documentaire dès l'instant où il y a cette volonté narrative, où il y a ces repérages, il y a une certaine part de mise en scène de votre frère? On a l'impression peut-être que plusieurs des scènes ont été rejouées, ou ont été... Il y a eu plusieurs prises, comme dans un long métrage de fiction.
En fait, cette fameuse frontière du documentaire, moi, je ne la reconnais pas. C'est-à-dire que pour moi, il y a en effet les matériaux du réel, mais moi, dans ma tête, mm-hmm. Moi, j'ai envie de parler de cinéma. Donc il y a les matériaux du réel et le cinéma, et pour moi, le cinéma sert à j'ai envie d'employer le mot transcender, mais à élever les champs du possible. Donc c'est à ça que moi, le cinéma me sert. Et bien, c'est là où il m'a nourri, et c'est là où j'avais envie d'aller, que ce soit avec ce film-ci ou avec mon film précédent.
Et donc, de façon peut-être un peu paradoxale, finalement, pour vous, filmer la réalité, filmer votre frère, c'est contribuer à transformer cette réalité, à transformer votre frère.
Moi j'aime bien dire à tordre le réel.
À tordre le réel.
Ouais.
Ok. C'est aussi votre... votre définition, votre façon de jouer des frontières. Delphine, donc vous, on est dans la création sonore. C'est vrai que Pauline, pourquoi avoir mis cette création sonore au programme d'un festival de cinéma? Et c'est la seule en plus. Hein la création sous l'eau, les larmes du poisson ne se voient pas, de Delphine Will qui est avec nous, et de Jeanne de Barcy. Alors peut-être avant de donner la parole à Delphine, pourquoi avoir choisi cette création qui sera en écoute publique ce samedi 9 octobre à 10h au Piano Fabrique? On aura les deux des trois épisodes.
Oui, c'est ce que je disais un petit peu au début, c'est que c'est un festival de films documentaires, mais pas seulement, c'est aussi un endroit pour se retrouver, un espace de rencontre et tout un tas d'activités en lien avec les films.
Une exposition d'architecture, la conférence de Mathieu Van Krikengem que vous avez évoquée, qui porte sur la gentrification. Il y a également la visite guidée, mais qui est complète sur une vision un peu dégenrée, voire féminine, de l'architecture. Et ce documentaire sonore.
Mais donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en avant des auteurs et des autrices. Donc via le cinéma, mais aussi le documentaire radiophonique a cette puissance de possible et de d'évocation très très forte. Et donc pour moi, ça n'avait pas du tout de sens de faire ce festival sans faire au moins une séance d'écoute radiophonique. Et chaque année, en fait, on accueille des documentaires radiophoniques et là, en plus, ce documentaire radiophonique, en l'occurrence, est tellement en lien avec le reste de la programmation, parce que, comme avec le film de Laure, Delphine part d'une histoire très très personnelle, et la travaille pour nous amener autre part, et pour dépasser justement cette seule réflexion familiale, pour nous permettre pour nous déplacer en fait, pour vraiment nous permettre de nous approprier aussi sa réflexion de façon beaucoup plus large en fait. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est là où il y a cinéma, où il y a, je sais pas comment on dit ça en radio, mais où il y a cinéma aussi, c'est vraiment cette puissance de déplacer juste son histoire personnelle, mais d'en faire quelque chose beaucoup plus universel.
Alors si Laure filme son frère, vous Delphine, c'est un membre de votre famille que vous n'avez pas connu, à la recherche duquel vous partez, c'est votre grand-père. Alors vous pouvez peut-être nous présenter d'où vient quand vous avez dit, mais là il y a quelque chose, je dois faire cette recherche sur mon grand-père que je ne connais pas.
Oui, mais en fait, cette idée, elle est bien vieille aussi, parce que elle date de il y a 10 ans en fait, plus ou moins. J'ai toujours eu en fait un manque, on va dire, sur l'histoire familiale, parce que ma mère en parlait, ses frères et sœurs de temps en temps, mais on n'avait pas beaucoup de détails quoi sur la vie. On savait que ma grand-mère et mon grand-père avaient beaucoup d'années de différence, et c'est plus ou moins tout quoi. Enfin, que mon grand-père avait été au Congo, que ma grand-mère était congolaise, voilà. Donc il y a 10 ans, je me suis dit que j'avais les outils en main pour commencer cette recherche qui me taraudait depuis quelques années. Et j'ai commencé à rechercher, faire des recherches dans les bibliothèques, etc. Et je suis tombée sur des premiers dossiers sur mon grand-père, deuxième, etc.
Votre grand-père qui était missionnaire, donc, c'est ça.
Qui était missionnaire.
Pour rappeler ce que c'est pour les plus jeunes générations, ce qu'était un missionnaire.
Oui, un missionnaire, c'est en gros un prêtre qui part à l'étranger pour évangéliser la population là-bas.
Et ici, en l'espèce, donc, le Congo belge.
Oui. Et donc mon grand-père était missionnaire belge, parti au Congo à l'époque coloniale. Forcément, il y a tous des documents qui sont liés à cette histoire-là, à son histoire à lui, que j'ai retrouvé. Des documents aussi plus personnels, plus familiaux, que j'ai retrouvé aussi à travers ma famille. Et à l'époque, toutes ces recherches-là se sont traduites ensuite en un film. Donc en 2017, j'ai terminé un film qui ne parle pas vraiment en fait, de mon grand-père finalement, mais qui est le point de départ du film. J'ai été retrouver des missionnaires belges qui sont partis au Congo à l'époque coloniale et qui ont vécu des itinéraires un petit peu similaires à mon grand-père, et je leur ai posé, j'ai eu des échanges avec eux pour voir un petit peu comment ils avaient vécu les choses, etc. Et donc de ce projet de film, il y avait encore un manque. Il y avait encore un manque, j'arrivais pas très bien à déterminer ce que c'était, mais sur le film, j'avais travaillé avec Jeanne de Barcy, donc ma co-réalisatrice. Et c'est elle, en fait, qui, à l'époque, m'a dit « Ah, Delphine, ça ne dirait pas qu'on continue, ce travail et qu'on en fasse une création sonore, quoi. » Et c'est là que le projet s'est transformé. Donc voilà, c'est une quête qui est hybride, qui part aussi un peu partout.
Une quête à laquelle vous associez votre mère.
Oui, mais ma mère, en fait, c'était forcément le point de départ. C'est à elle que j'ai posé les premières questions. C'est elle qui savait les choses que je savais moi. Et c'est aussi la personne qui est assez ouverte, en fait, dans ma famille à discuter de cette histoire où il y a plein de tabous, où il y a beaucoup de choses un peu gênantes. Et donc, voilà, je suis partie de ma mère et c'est elle qui me permet de rentrer dans cette histoire intime, en fait.
Et votre mère, qui donc est née au Congo, mais qui n'y était jamais revenue à la suite du retour de vos grands-parents ici en Belgique, de votre grand-père et de votre grand-mère congolaise. Elle n'y était jamais rentrée. Elle n'était jamais retournée au Congo.
C'est ça, elle n'est jamais retournée. Donc, elle a quitté le Congo en 66. Mon grand-père décède 2 ans plus tard. Toute la famille est en Belgique. Ma grand-mère est retournée au Congo plusieurs fois. Mais elle y retourne une petite fois pendant quelques mois en 66, mais c'est tout, quoi. Et donc, ça faisait plus de 50 ans qu'elle n'était pas retournée. Et moi, entre-temps, j'y suis retournée sans elle. Mmh. Et petit à petit, je lui en ai parlé. Et puis, ça lui a donné un petit peu envie. Elle s'est dit, c'est vrai que c'était douloureux. C'était un peu difficile de se projeter au Congo, mais en même temps, elle avait envie, quoi. Donc voilà, un jour, je lui ai dit que ce serait quand même chouette qu'on y retourne et qu'on enregistre ça, et voilà.
Et donc, vous avez aussi fait du repérage, alors, en fait. Il y a eu aussi une préparation du travail où tout était, entre guillemets, spontané, enregistré sur le vif, où il y avait quand même aussi...
C'était plutôt enregistré sur le vif, parce que quand j'y suis retournée, moi, c'était pas dans le cadre de la création sonore. Donc c'était pour mon mémoire de fin d'études, et puis je sautais sur toutes les occasions pour retourner au Congo. Mais c'était pas forcément pour la création sonore. C'est donc la création sonore, il n'y a pas eu de repérage proprement dit pour le tournage, quoi. On a enregistré direct, quoi. Mmh, mmh.
Puisque donc en effet on va pas trop divulgâcher, mais bon, on a compris que ça figure d'ailleurs dans le résumé que vous partez sur les traces de la maison de votre mère, de vos grands-parents, avec votre mère. Et puis vous rentrez en Belgique peut-être un petit peu sur votre faim, et l'auditeur aussi l'est un petit peu. Mais le documentaire prend une toute autre direction. Mais c'est vrai que vous intéressez à ce moment-là à votre retour en Belgique à la personne dont qu'on évoque finalement très peu pendant toute la première partie du documentaire, qui est votre grand-mère. Mmh. Alors ça, c'était dès le départ. Vous saviez que vous alliez aussi creuser cette piste-là, ou c'est finalement après avoir fait tout ce que vous pouviez faire pour retrouver les traces de votre grand-père et remettre un peu les puzzles de la famille dans le bon ordre, que vous avez dit, mais en fait, il y a quelque chose là, il y a encore un trou béant dans lequel plonger, c'est celui de votre voix.
Ouais. En fait, la création sonore, au départ, c'était un épisode.
Ok.
Donc c'était un unitaire et on est parti au Congo dans l'idée de faire un unitaire, quoi, sur le grand-père, le retour au Congo, etc. Et puis quand on est arrivé là-bas, en fait, on s'est rendu compte que forcément, ma famille congolaise parlait beaucoup de ma grand-mère. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis dit, mais c'est bizarre quand même. Comment ça se fait que je me suis jamais posé de questions, beaucoup de questions sur ma grand-mère, quoi. Et c'est là, en fait, que le déclic s'est joué, quoi. Okay. C'est vraiment au moment des tournages et au moment où tout ça s'est déroulé qu'il y a eu ce déclic-là. Et forcément, Jeanne, qui était avec moi pendant tout le processus et qui avait un œil extérieur, et c'est là que, évidemment, sa place est importante, c'est qu'elle avait beaucoup plus de recul que moi, et elle voyait ça, en fait. Enfin, elle l'a vu, et ça nous a sauté aux yeux quand on était au Congo, mais elle le voyait déjà... Depuis le début.
Ouais. Mais contrairement à votre grand-père que vous n'avez pas connu, vous avez des souvenirs de votre grand-mère. Je pense qu'elle est décédée après votre naissance. Ouais. Et donc vous aviez des souvenirs d'elle, enfant.
Oui, j'ai quelques souvenirs. Mais après, j'arrive pas trop à dire si c'est des souvenirs réels ou si c'est des souvenirs de photos ou de ce qu'on m'a raconté. Donc ça, c'est un peu.
C'est votre mère, un peu les mêmes souvenirs. Elle sait plus très bien si ce dont elle se souvient au Congo est réel ou a été refabriqué après.
Oui, c'est ça. En fait, j'avais 5 ans en fait quand ma grand-mère est décédée. Donc forcément, c'est vague, quoi.
Mmh. Et alors là, une deuxième enquête commence. C'est celle qui porte sur la vie de votre grand-mère qui a été un petit peu complètement délocalisée puisqu'elle est rentrée ici en Belgique quelques mois après son mari décède. Vous avez expliqué une énorme différence d'âge, plus d'une trentaine d'années.
40 ans.
40 ans, voilà. Votre grand-père qui a donc dû quitter les ordres pour pouvoir épouser votre grand-mère qui était encore extrêmement jeune. On va pas trop dévoiler, mais Son installation, sa vie de veuve ici en Belgique se passe pas très très bien.
Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais.
Et alors voilà, et donc et vous faites aussi, vous essayez de comprendre ce qui s'est passé, et ce qu'elle a vécu pendant toutes ces années ici en Belgique. Et là, ça devient absolument bouleversant. Je dirais, le point commun entre vos deux travaux, Laure et Delphine, c'est que finalement, à partir d'une histoire très intime, vraiment très familial, très intime, il y a quand même quelque chose de profondément politique. Alors c'est peut-être encore plus flagrant chez vous, Delphine, puisque là on interroge évidemment la décolonisation, on interrogera aussi la psychiatrie dans un deuxième temps. Chez vous, Laure, il y a quand même une question de lutte des classes, quelque part, où, peut-être pas dans ces termes aussi clairs là, mais il y a quand même... Il y a un sous-texte social assez fort dans votre film. Est-ce que cette dimension politique de votre travail, vous la revendiquez ? Ou elle vient un peu... elle est finalement plus l'œuvre du spectateur ou de la spectatrice que de votre propre point de vue ?
Je voudrais pas qu'on confonde le politique du social, mais
quelle distinction vous faites entre les deux?
Moi, j'ai jamais voulu faire de mon frère un outil de sociologue, là, de parler de j'ai jamais voulu parler d'un jeune délinquant issu des cités j'ai voulu faire quelque chose qui dépasse qui l'emmène justement plus haut c'est quoi le mot des sociologues justement, c'est le déterminisme social. mais politique, ça, je pense que je sais pas si tout acte de création l'est, mais en tout cas le fait de s'inscrire dans un de s'inscrire dans le réel, dans une époque, de l'interroger, ça c'est politique. Mais j'ai pas de revendication de manière générale de toute façon, mais je pense que c'est ça qui est politique, c'est d'interroger, c'est qui on interroge et comment on l'interroge.
Et dépasser peut-être aussi les idées reçues. Enfin, il y a cette très très belle scène de départ qui donne tout le ton du film avec ta rencontre avec ton frère qui à ce moment-là a 15-16 ans et à qui tu fais parler de sa vie et qui parle aux journalistes de la télé en parlant des cités de Sarkozy dans un discours hyper consensuel et formel et que Laure casse tout de suite en disant là on va essayer d'aller sur un terrain un peu plus profond.
En fait. C'était pas tant pour le film que je le faisais, c'était
pour ta relation à lui.
Oui, c'était parce que ça m'intéresse profondément pas de parler de ça.
Oui, mais en fait c'est en ça que ta place de sœur permet ça, tu vois, permet justement de dépasser ce discours pour aller vraiment à la rencontre de Arnaud. Et de nous permettre, du coup, de le rencontrer vraiment.
Dans les deux réalisations, j'allais presque dire dans les deux films, mais évidemment ça ne marche pas, il y a un autre point commun, donc je ne sais pas s'il veut dire quelque chose, mais on voit ou on entend dans les deux la réalisation en train de se faire chez Delphine via les conversations entre les deux co-réalisatrices. Dès le début, dès les premières minutes, c'est par là qu'on rentre dans l'histoire et dans le film de Laure aussi. Évidemment, c'est en partie une construction puisque les sons et les images n'arrivent pas dans la réalisation finale par hasard. Mais donc pourquoi cette stratégie pour entrer dans l'histoire ?
Mais nous ça s'est un peu imposé quoi, parce que c'est comme ça que le projet a commencé et donc forcément on avait beaucoup de discussions autour de cette histoire familiale qui je pense amène plus de profondeur à ce qu'on est en train de vivre avec la famille, etc. Donc je pense que ce dont on discute, Jeanne et moi, en privé, enfin en tout cas de notre côté, c'est aussi le regard qu'on porte sur ce qu'on voit et ce qu'on vit, quoi.
C'est vrai qu'il y a un peu les coulisses un petit peu sont mises en scène dans vos deux, et je pense que c'est à travers certaines bandes-annonces, d'autres documentaires, on voit aussi ça. Je pense notamment au documentaire de... je ne vais pas revenir sur son nom, mais c'est pas grave. De Rosine Mambakam. Voilà, les prières de Delphine, où on voit aussi cette interaction. Mais non, mais ça, tu couperas. Et puis, évidemment, elle ne le coupe pas. Rosine Mambakam, qui d'ailleurs avait présenté l'année passée, je pense, son documentaire dans les salons de coiffure de Matongué.
Chez Jolie Coiffure.
Voilà, Jolie Coiffure. Mais le fait que, évidemment, la question qui est peut-être un peu idiote, mais évidemment, en tout cas moi, elle me brûle les lèvres, c'est de savoir si, de votre côté, est-ce que votre frère a pu voir le film ?
Oui.
Oui ?
Oui.
Et quelle a été sa... Enfin voilà,
c'est la question.
Évidemment.
Oui. C'était. Moi, j'étais déjà très 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 heureuse qu'il veuille voir le film. Il était à un endroit où c'était presque plus mon inquiétude. Est-ce qu'il va avoir envie de le voir ? Et donc j'étais très 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 heureuse de savoir qu'il en avait très envie.
Ok.
Sa première question, c'est mais par quoi t'as fini ?
Ça, je pense que vous le saviez presque dès le départ, ou en tout cas assez vite, de terminer par l'un de ses dessins, parce que
c'était écrit ça. C'était en 2014, je lui ai demandé de dessiner la dernière image du film.
Voilà.
Et donc du coup, ça, il fallait. Ce qui est dingue, c'est qu'il dit, ce qui est fort dans cette idée de qu'on que le cinéma, et pas que, hein, je pense, mais qu'on peut se dépasser en se projetant, en s'inventant. Et c'est ça qu'il raconte, en fait, Arnaud. Mmh. C'est qu'en dessinant, il s'est mis des objectifs. Mais je savais pas qu'il allait aussi bien y rentrer. J'y croyais pas.
Et donc le film est émaillé de dessins assez magnifiques d'ailleurs de votre frère qui est assez doué. Alors bon, c'est pas du tout quelque chose qui
pour t'a... raconter.
C'est sa force.
C'est ce qui en fait sa force de protagoniste de...
Ouais, mais donc il a vu le film.
Il
vous a fait un petit compte rendu critique.
Exactement. Il peut mieux faire. La première minute, t'avais matière à mieux faire. Mais c'est le dernier tiers du film où c'est vraiment je m'approprie quelque chose et je tords l'histoire pour qu'elle rentre aussi je tords l'histoire au sens chronologique de la réalité pour qu'elle rentre dans ce dessin. Mmh. Et où là il est reparti nourri. Nourri pour sa vie d'aujourd'hui après ces 15 ans d'histoire, après le film. Mais si je dis de quoi,
je
vais spoiler.
Ah non, ça on peut vraiment pas le dire parce que c'est trop bouleversant pour être annoncé. Il faut vraiment laisser la surprise. Vous, Delphine, vous avez pu faire écouter votre création à votre mère, on l'imagine, mais surtout à votre famille encore présente, enfin votre famille, les cousins, les cousines de votre mère au Congo.
Oui, alors à ma mère, bien sûr que je l'ai fait écouter.
Ça l'a remué, j'imagine.
Forcément, elle était super excitée de l'écouter. Après, c'est vrai que comme le documentaire ne parle pas, n'est pas sur elle, sur son parcours, etc. Forcément, elle avait parfois aussi des choses à dire sur ah mais non, ça s'est pas passé comme ça ou voilà des petites choses comme ça. Forcément, elle a été un peu remuée aussi parce que elle n'avait pas eu conscience que j'avais trouvé autant d'archives et sur l'histoire familiale. La famille congolaise, j'ai pas encore eu l'occasion de leur faire écouter, mais ça ne saurait tarder. Et par contre, ma famille belge l'a écoutée. Et voilà, c'est pas très facile pour l'instant. Enfin, il y a un peu tous les retours, quoi. Enfin, il y en a qui sont très heureux de l'avoir écouté, d'avoir appris plein de choses sur la famille, et d'autres qui sont un petit peu, ça passe pas tout à fait, quoi.
Ok. Ah ouais. Bien.
On peut noter aussi que le documentaire il va passer sur Panique.
Donc, oui, exactement.
Notamment, ça peut être utile pour les gens qui ne pourraient pas être au Piano Fabrique, car peut-être qu'il y en aura quelques-uns, mais aussi pour entendre le troisième épisode, parce que je pense qu'ils ne vont pas tous passer au Piano Fabrique. Entre-temps, j'ai retrouvé le teaser dont on parlait hors antenne, en fait. Les auditeurs n'ont pas entendu cette partie de la conversation. Mais donc je vous révèle qu'on était à la recherche du teaser. Est-ce qu'on écouterait le teaser ?
Mais oui, et puis après on fait un petit point pratique avec Pauline sur ce festival en ville.
Très bien.
C'est toi qui m'as donné envie, oui. Mais maintenant j'ai vraiment envie. Je suis prête. C'est quelque chose que je sens maintenant que je dois faire. Maintenant, je vais voir ce qui va se passer naturellement quand je vais rentrer. Chez eux, enfin, rentrer, oui, aller rentrer chez moi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau, ça fait, disons, 50 ans, hein, puisque j'ai 58 ans. C'est quand même quelque chose de terrible. Et on verra.
Sous l'eau, les larmes du poisson ne se voient pas, donc bientôt à l'antenne, mais encore plus vite au Piano Fabrique.
C'est ce samedi 9 octobre à 10h, audition publique, écoute radio publique de cette création sonore. Vous, Laure Portier, donc vous êtes la réalisatrice, on rappelle, de Soy Libre, le documentaire il sera projeté au Cinéma Galerie. Ce sera le lundi 11 octobre à 19h. Mais justement, pour un peu boucler la boucle, on expliquait que c'était important de projeter ces documentaires sur grand écran, dans des salles de cinéma. On n'a pas toujours l'occasion de voir. Est-ce que votre film, il est prévu qu'il sorte en salle à un moment donné?
Il y a un distributeur français, mais la Belgique, je ne sais pas très bien encore comment ça va se passer.
Mais donc en France, il va sortir.
Il va sortir le 9 mars 2022.
Ok, waouh. D'accord.
Et par ailleurs, il est déjà passé dans 2-3 endroits. Il est assez bien reçu. Hein. Ça marche assez bien.
Ouais.
Parce qu'il est passé. il est passé à l'Acide, au Brief. Il a eu un prix, il me semble. Oui. Et alors au Centre Pompidou, à la Semaine des Cahiers, qui ne s'appelle plus comme ça, mais qui est plus ou moins ça.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Ça,
il vient d'avoir un prix au Festival du film de Zurich.
Une mention,
oui.
Voilà.
J'apprécie qu'il soit vu, en effet. C'était important. Voilà.
On rappelle donc au Festival en Ville, ça commence demain, jeudi 7 octobre, au Cinéma Palace. Peut-être un petit mot sur le choix du film qui va introduire le festival.
Alpes, c'est un film belge de Naël Cléphy, un film sur la résistance et l'engagement, en fait, qui suit un groupe de solidarité de Français dans l'Est de la France qui accueille, réceptionne presque les personnes migrantes qui arrivent via l'Italie en traversant les Alpes et qu'ils accueillent après leur parcours enneigé. Donc vraiment un film d'engagement face au fatalisme ambiant.
Un film belge, puisqu'en effet, la programmation fait la part belle aux réalisateurs et réalisatrices belges, mais on a bien compris que c'était vraiment très très international, avec des films du Brésil, d'Espagne, d'un peu partout, d'Amérique latine aussi, avec les Lucias del Deserto de Félix Blum. Et ça se termine le vendredi 15 octobre, donc ça dure une bonne semaine au Cinéma Galerie. Ça se termine avec une masterclass de Effie Weiss et d'Amir Borenstein, hein, dont on évoquait le documentaire By the Throat.
D'ailleurs, je voulais dire ça quand on a parlé d'Effie et Amir tout à l'heure, ils ont aussi fait un projet qui s'est terminé par des réalisations radio. Mm-hmm. Il n'y a pas très longtemps, ça se passait à la Centrale pendant l'été. Donc un assez long projet qui s'appelait L'hypothèse d'une porte, avec comme aboutissement du projet 3 émissions radio, dont les deux premières sont déjà passées sur Panique et on peut les retrouver en podcast, et la troisième passera ce vendredi midi.
Super.
Voilà.
Et cérémonie de clôture à 19h avec la remise des prix, des différents prix. La rencontre avec Frédéric Wiseman, ce sera donc le 15 octobre au Cinéma Galerie. Mais comme on l'a dit, entre-temps, conférence de Mathieu Van Krikengem, ce sera le mardi 12 octobre au De Markten, au centre De Markten, le 12 octobre. Et puis après, il y a encore une prolongation au Cinéma Nova. Mais tout ça, on vous renvoie peut-être sur le site festivalenville.be. Très concrètement, Pauline, est-ce qu'il y a un prix d'entrée? Est-ce qu'il y a un pass pour l'ensemble des séances? Comment ça se passe? Est-ce que c'est Covid Safe Ticket, etc.?
Alors, ce festival, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir la porte au cinéma documentaire à celles et ceux qui n'y ont pas forcément accès. Donc, par exemple, toutes les séances des films de Frédéric Wiseman sont en accès libre, entrée libre sur inscription. Donc sur le site de la Cinémathèque, quand ça se passe à la Cinémathèque, à Beaux-Arts, etc. Donc voilà, ça c'est une chose. Et puis oui, il y a des passes, donc le ticket c'est 8 euros l'entrée, mais il y a des passes 5 places qui font la place à 5 euros. Et on peut venir à 5 copains, on n'est pas obligé de venir voir 5 films, même si vous devriez. Mais voilà, donc on peut venir à 5 copains et acheter un pass pour 5 personnes à 5 euros. Et toutes les activités hors film sont en accès libre aussi sur réservation. Donc la création sonore de Delphine Will et Jeanne de Barcy, c'est en accès libre, mais il faut réserver, etc., etc.
L'exposition au centre.
Voilà, donc ça c'est sur notre site internet. Voilà, l'idée c'est vraiment de allez, on ouvre les portes. Et donc, ben, on applique les mesures en vigueur à Bruxelles, donc pas de passe avant le 15 et un passe le 15. Et bon, en même temps, c'est Frédéric Wiseman, il a son âge. Je pense qu'on aura quand on aura des masques, on aura des passes et on sera content.
Très bien. On va devoir prendre l'antenne. Donc, vous retrouvez le...